Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Le rendez-vous jeu numéro 212. Il y a trop de jeux absolument partout et on va essayer de parler d'autant de jeux qu'on peut. Il y aura du Inscription, du Darkest Dungeon 2, du Lone Echo 2, du Unpacking, absolument plein de trucs. On aura aussi des news évidemment, avec des news du côté de Blizzard, le The Event, le Metaverse, enfin tout ce qu'il faut. Et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui parce qu'on a un programme extrêmement chargé et vous avez choisi un bon épisode à écouter. Vous allez passer un bon moment, j'espère, en notre compagnie. Avant de nous lancer, quand même un grand merci à Yann Michalafarinaz, Gilles, Julien Lefort, Foulque de Moncade et Cyril. Et bien sûr, un extra grand merci à Claude Girel. Tous ces gens-là sont ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvjeu. C'est grâce à eux que nous sommes dans vos oreilles. On les remercie infiniment, et moi en particulier, parce qu'ils me mettent à manger dans le ventre. Donc, je suis extrêmement reconnaissant qu'ils donnent un petit peu de valeur pour cet épisode qu'ils apprécient, enfin, cette émission qu'ils apprécient. Autre petit mot, très rapidement, pour l'after show, je pense qu'on va faire les meilleures suites de l'histoire. Je pense que c'est un sujet marrant qu'on pourrait essayer d'explorer avec les auditeurs qui participeront à l'after show. Les meilleures suites de l'histoire, c'est pas évident, et c'est un peu plus compliqué que les meilleurs jeux de l'histoire, donc ça sera peut-être un sujet rigolo à explorer. IGN Gamescoop en parlait la semaine dernière, je leur vole l'idée. Je suis extrêmement sans aucune honte dans mes vols de bonnes idées. Et je suis également sans aucune honte dans mes vols de bons animateurs. Et aujourd'hui, on est gâtés parce qu'on a d'une part Jika, qui est forcément quelqu'un d'une qualité absolument incommensurable. Salut Jika, comment ça va ?
Oui, j'ai l'impression qu'à chaque émission, tu me tartines un peu plus en termes de compliments, ça me fait plaisir. Hein. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais je suis, comme d'habitude, très extrêmement content d'être ici.
Écoute, tu sais, Jika, mon ambition dans ce podcast, c'est de te tartiner toujours un petit peu plus à chaque épisode. Donc, si j'y arrive, c'est très bien. C'est parfait. Et on a un autre... Non, reste, Mehdi. On a également Mehdi qui est... en fait, on a un petit peu, vous savez qu'on aime énormément le Cozy Corner dans cette émission, le podcast le plus feel good de la podcastosphère francophone. Yes. Et on aime beaucoup Kevin alias Muguri. Il est sympa, il est gentil, quoi. Voilà, on va dire comme ça, il est gentil. Mais enfin, la meilleure moitié, comme on dit en anglais, du Cozy Corner, la personne qu'on attendait, qu'on espérait avoir du Cozy Corner, c'est quand même Mehdi. Qui nous fait le plaisir de nous rejoindre aujourd'hui. Salut Mehdi, comment ça va ?
Ça va très bien, merci. Écoute, je vais m'empresser de transmettre tout ce que tu viens de dire à Kevin.
On a déjà reçu Kevin deux ou trois fois, et ouais. Bon, il nous manquait un petit peu de Mehdi dans l'émission quand même, donc on y remédie aujourd'hui.
Ouais. Ah, c'est bon ça. Ah, c'est bon ça, Patrick. Ah, écoute, tu vois, j'étais mal réveillé, mais là, c'est bon.
Cool. Bon, très heureux que tu sois avec nous. Surtout que aujourd'hui, bon sang. Enfin, on dit souvent, il y a trop de jeux dans l'univers, dans l'univers du jeu vidéo en ce moment et depuis quelques années. Mais vraiment, là, il y a trop de jeux. Il faut un jingle. Il y a trop de jeux. Et on va essayer de parler d'autant de jeux qu'on peut aujourd'hui, mais en particulier, il y a des jeux dont on va parler, enfin dont tu vas nous parler Mehdi et dont tu vas nous parler Jika, dont je suis très curieux d'entendre un petit peu plus. Et on va y venir dans un instant, on va parler de Inscription, Darkest Dungeon 2, Lone Echo 2, Resident Evil 4 en VR, enfin plein de trucs super intéressants. Et on a aussi des news comme j'en parlais dans l'intro, mais ces jeux-là, je suis très curieux d'en entendre parler, donc... On va se lancer à peu près tout de suite, non sans dire bonjour à la chatroom. Vous savez qu'on est sur Twitch en live le jeudi midi, tous les jeudis midi. Donc bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Gloire au Patrixme et bonjour à tous et à toutes, dit Uncle Dark. Le patrixme, c'est un petit peu la doctrine qu'il nous faut dans notre pays et dans notre monde. Pour ceux qui ne savent pas, je l'explique très rapidement. Le patrixme, c'est un petit peu une sorte de dictature éclairée. Ça peut faire peur, mais en fait, tout va bien parce que c'est Patrick qui décide. Et comme moi, je sais ce qu'il faut faire, bah, c'est quand même assez rassurant. Vous pouvez dormir tranquille sous le patrixme, tout ira mieux. On milite pour essayer d'y arriver un jour. On n'y est pas encore, mais à un moment, ça arrivera. Merci, Uncle Dark. Donc, les jeux dont on va vous parler, je vais dire un tout petit mot sur Guardians of the Galaxy encore, dont je parlais la semaine dernière. Est-ce que vous avez déjà touché à Guardians of the Galaxy, JK et Mehdi ?
Pas encore, j'ai le jeu, figure-toi, mais je ne l'ai pas lancé. Je pense que je vais le faire, parce que ça a l'air plutôt sympathique, voilà.
J'ai comme l'impression que Mehdi, c'est pas ta cam, ça.
Figure-toi que j'ai également le jeu, mais c'est parce qu'il était offert avec le nouveau PC que j'ai acheté il y a quelques jours. Et donc, j'y ai pas encore touché. Voilà. Et effectivement, ça n'a pas l'air, d'ici, ça n'a pas l'air d'être ma cam. Mais bon, après, je suis un garçon curieux. Donc, voilà. Et puis, j'aime bien les trucs Marvel de manière générale, j'aime bien les. Enfin. Oui, c'est des trucs qui me divertissent. Donc, pourquoi pas Gardien of the Galaxy ? Pourquoi pas ?
Eh bien, écoute, si c'est un truc qui te divertit, et c'est ça que tu recherches, franchement, je ne peux que recommander ce jeu. Comme je le disais la semaine dernière, au niveau gameplay, c'est sympa, ça casse pas des briques, mais ça passe. Au niveau, il y a des petits puzzles, bon, ça va, mais j'ai l'impression que la semaine dernière, la raison pour laquelle je voulais revenir dessus, c'est que j'ai pas assez insisté sur la qualité de l'écriture de ce jeu et la manière dont il vous fait vivre la position de leadership éclairé, ou en tout cas bienveillant, de Peter Quill dans le jeu, pris au milieu de son équipe qui prend vraiment vie au fur et à mesure de l'aventure. C'est vraiment une écriture qui donne toute sa qualité au jeu et qui est au meilleur niveau du jeu vidéo. Et je trouve que c'est vraiment dommage que le jeu ait eu une image aussi... aussi négative à la base, parce que, en tout cas, les gens n'en attendaient pas grand-chose et sont partis du principe, à cause de Marvel's Avengers, je crois, le jeu qui, lui, s'est un petit peu rétamé, sont partis du principe que ça serait pas bien, ils ont pris les trailers, ils sont partis du principe que le jeu était mauvais. Et vraiment, l'écriture est drôle du début à la fin, mais pas que. Il y a des moments assez émouvants, il y a des caractérisations de personnages, je ne vais pas dévoiler certains moments, mais j'en suis peut-être un petit peu plus de la moitié, il y a un personnage qui a été teasé dans les films et qui est présent et qui est représenté d'une manière qui est aussi brillante que dans les films Marvel, qui est complètement fidèle aux comics, mais qui est en même temps super amusante et rigolote et fonctionne. Et en plus de ça, l'arc narratif de Peter Quill est vraiment... Bon, c'est pas non plus un jeu qui vous fera pleurer, mais ça, c'est pas juste des scènes d'action. Les relations entre les personnages sont tendues et il faut que Peter Quill, il est pris au milieu. Et j'écoutais un podcast il y a pas longtemps, il disait c'est un petit peu le Ted Lasso de l'univers Marvel. Peter Quill, il est vraiment pris au milieu de ce groupe de coéquipiers qui pourraient être une vraie équipe, un vrai bon groupe qui travaille ensemble, mais qui sont trop malhabiles et trop braqués sur leur truc pour s'entendre. Et lui, il essaye de les tenir ensemble, en groupe, et il est, comme je disais, le Ted Lasso, il veut... que tout le monde s'entende bien, il veut sauver les gens, il est bon, il est gentil. Et on est, nous, donc, au milieu de toute cette... ce chaos qui, entre les histoires du jeu lui-même, c'est-à-dire les aventures, les trucs qui se passent pas bien, et l'équipe elle-même. Et on est au milieu de tout ça, on essaye de prendre les bonnes décisions, de les garder ensemble. Et on le vit vraiment comme un film... de la meilleure qualité. Je le compare au Guardians of the Galaxy, le premier de James Gunn. Il est franchement aussi bon et aussi drôle et aussi bien écrit. Et comme je le disais, je marre tout le temps. Et puis, il y a des moments un petit peu émouvants. J'insiste sur ce fait parce que ça amène une qualité de jeu qui est bien au-delà de la somme de ces différents éléments. C'est-à-dire que le gameplay, bon, ça va, mais pendant le jeu, on est tout le temps en train de parler avec nos coéquipiers. Si on va faire quelque chose un petit peu plus loin que là où on est censé résoudre le puzzle du moment, les coéquipiers vont nous dire un truc. Ils vont nous dire « Eh, mais c'est bon, Peter, qu'est-ce que tu vas foutre par là ?» Non, mais ils vont sortir une petite blague. Il y a Drax qui est hilarant avec son ton hyper... comment dire, il comprend pas le second degré. Il est hyper premier degré tout le temps. Et il dit des trucs marrants en permanence. La manière dont on interagit avec les différents personnages de l'équipe est vraiment un truc que j'ai rarement vu. Ça se compare presque aux mécaniques de groupe qu'on peut avoir dans, ou de discussion, de conversation qu'on peut avoir dans un jeu Naughty Dog, un Uncharted ou un The Last of Us, où on a toujours des conversations dans le jeu, sauf que c'est avec 4 autres personnages en même temps. Bon, 3,5 si on compte Groot comme un demi, mais et on parle tout le temps. Et ils nous disent des trucs qui sont cohérents avec ce qu'on est en train de faire, et il y a des interactions qu'on peut avoir où on doit choisir ce qu'on va dire à qui on va mettre en avant, qui on va protéger. C'est au niveau de la conversation et de la matérialisation des coéquipiers, c'est vraiment un niveau au-dessus de tout ce qu'on a vu dans tous les jeux de l'histoire. Et c'est au niveau de l'écriture et au niveau technique, la manière dont ils engagent les éléments de conversation à tel ou tel moment, dont ils vont lancer une ligne de dialogue, dont ils vont interrompre le truc, etc. À tel point que quand je vais à un endroit, j'avance un petit peu trop et ça coupe la conversation qu'on était en train d'avoir, je suis furieux parce que je voulais savoir ce qu'ils allaient dire, savoir ce qui allait se passer, rigoler à la blague qui allait arriver certainement, enfin bref. Bon. Ça ne sera pas un jeu pour tout le monde non plus, mais cet aspect du jeu, je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant parce que c'est une grande qualité qu'on ne voit pas ailleurs. Ou pas comme ça, pas aussi bien réussi. Donc voilà, sur le petit Guardians of the Galaxy.
Et c'est une espèce d'Uncharted en termes de gameplay, c'est ça? Ça mélange combat, exploration, vite fait, c'est assez linéaire. Enfin, c'est complètement différent d'un Marvel Avenger. On est d'accord?
Complètement, ouais. On est très, très linéaire, on suit l'histoire. Uncharted, ouais, on peut vraiment le comparer avec Uncharted dans ce sens-là, sauf qu'on est 4 au lieu d'être 2 ou 3 ou ce que c'est. Enfin, 5, si on compte Peter aussi. Ouais, mais c'est vraiment Uncharted, ouais. Les combats, à vrai dire, sont pas aussi réussis que dans Uncharted. C'est un peu plus fouillis, en fait. Le problème, c'est qu'on peut contrôler les coéquipiers et leur dire « Maintenant, toi, tu dois faire ça, toi, tu dois faire ça. » Et c'est très fouillis, quoi. C'est compliqué de cibler le bon ennemi et de dire aux coéquipiers de faire sur tel ennemi ce qu'il doit faire. Les combats sont pas ultra réussis, il y a des bonnes idées.
Est-ce qu'on peut ne pas diriger les coéquipiers? Est-ce que si on fait rien, ils se gèrent tout seuls? C'est peut-être ça aussi l'intérêt.
Alors, il se gère tout seul, mais c'est les coups spéciaux qu'on va déclencher et t'en as besoin. Clairement, dans les combats, si tu n'utilises pas leurs coups spéciaux, ça va pas bien se passer. Et t'as les trucs genre, il y en a un qui fait du crowd control, un qui va pouvoir faire des coups qui font du stagger, qui vont étourdir les ennemis. Et puis t'as aussi, toi, avec ton arme, au fur et à mesure que l'histoire avance, différents types de munitions qui vont avoir différents effets. Ça devient de plus en plus complexe, relativement intéressant, mais encore une fois, c'est pas pour ça que vous allez lancer le jeu, quoi. Super. JK, tu veux nous parler... On va arriver à Inscription juste après, mais JK, qu'est-ce que c'est que Dusk qui est sorti sur Switch? Il était déjà dispo avant.
Okay.
Ouais, si ça te
tu n'avais jamais entendu parler de Dusk? Enfin, ça vous parle pas du tout?
Non.
Ah, alors c'est sorti en 2019, je crois, Dusk. À la base, c'était un jeu exclusivement PC. Et ça fait partie de cette vague de nouveaux jeux indépendants que moi j'adore, ce que j'appelle les FPS néo-rétro. Donc, c'est-à-dire que c'est des FPS qui reprennent le style visuel, souvent des FPS des années 90, début 2000, donc Quake, Duck Nukem 3D, enfin voilà, tous ces jeux que moi, personnellement, j'adorais, avec derrière quand même une couche de modernité en termes de contrôle, etc. Et parmi cette vague de jeux de FPS néo-rétro, Dusk est clairement le meilleur, enfin, à l'époque, en tout cas, moi, je l'avais fait avec un immense plaisir. Si vraiment vous aimez les FPS très nerveux, très rapides, avec une ambiance qui mélange à la fois l'horreur, l'industriel, voilà, il y a vraiment des inspirations dans tous les sens. Il y a un des meilleurs level design de FPS que j'ai vu de ma vie, très honnêtement. C'est incroyable. C'est un jeu qui a été développé par une personne et vraiment, c'est brillant. Le feeling des armes est vraiment super bon. Donc déjà sur PC, c'était un excellent jeu. Ils ont pris le temps de le porter sur Switch parce qu'en fait, il fallait adapter pas mal de choses parce que c'est vraiment à la base un FPS PC, donc clavier souris. Et on se demandait vraiment comment ça pourrait passer à la manette, surtout avec les Joy-Con de la Switch qui sont pas réputés pour être les plus précis pour jouer à ce genre de jeu. Pardon. Et c'est étonnamment réussi. Alors c'est moins précis que sur PC. On va dire que si vous connaissez pas le jeu, que ça vous tente et que vous avez le choix et que vous voulez pas jouer en mode portable, faites-le plutôt sur PC. Je pense que ça vous aurez une maniabilité encore meilleure en clavier souris. Par contre, ils ont fait vraiment tous les efforts pour l'adapter correctement à la Switch, notamment des idées toutes bêtes, mais ils utilisent le gyroscope de la console, c'est-à-dire que tu peux effectivement viser avec les joysticks et tu peux ajuster ton tir pour être un peu plus précis en levant légèrement la console ou en levant légèrement les Joy-Con, et ça marche ultra bien. Il y a une tonne d'options de d'accessibilité, de réglages, une visée plus ou moins assistée si tu galères, etc. Et là je me surprends à refaire le jeu en entier parce que je l'avais fait déjà à l'époque, et là je refais le jeu. En fait, j'ai fait le test pour jeuxvideo.com et là, je me surprends vraiment à le refaire en entier parce que c'est vraiment génial. Donc, après, je sais pas si j'imagine que tu as balancé le trailer là sur Twitch.
Ouais.
C'est moche. Hein. C'est moche. Ah, c'est un style graphique. Non, mais c'est un style graphique.
C'est néo-rétro, quoi.
Voilà, mais c'est un style graphique qui est très particulier et je comprends qu'aussi il y a des gens que ça repousse. C'est clair que c'est pas Doom Eternal, c'est pas Battlefield, on est très loin de ça. Par contre, vraiment, il y a une ambiance sonore, il y a une ambiance même horrifique par moment qui est vraiment excellente. Avec, encore une fois, j'insiste, les armes, elles ont un feeling incroyable. En termes de modélisation, elles sont hyper basiques. Par contre, le feeling sonore, le retour du fusil, voilà. Je trouve que la plus grande qualité du jeu, c'est que rapidement, en fait, une fois que tu as ton arsenal qui est relativement complet, chaque type d'ennemi s'adapte mieux à un type d'arme différent. Donc, tu passes ton temps à changer d'arme, à t'adapter à la situation. Tu es tout le temps en mouvement. C'est vraiment un jeu que j'adore et j'invite vraiment les gens à le découvrir, que ce soit sur Switch ou sur PC, parce que il coûte 15 balles et c'est un super jeu, quoi. C'est vraiment un super jeu.
Si on doit choisir Switch ou PC, jusqu'à ce que la Steam Deck, jusqu'à ce que Steam Deck arrive.
Ouais. Ah bah Steam Deck, il tournera sans problème sur Steam Deck. Ouais. C'est ce que je disais. En fait, ça dépend. Si vous êtes vraiment habitué au FPS console et que vous jouez pas sans problème, franchement, la version Switch, elle gère bien. T'es à 60 FPS constant. Il y a beaucoup d'options pour que la prise en main soit très bonne. Voilà. Après, si vous êtes un PC Master Race hardcore et que vous jouerez que par clavier souris, mieux vaut opter pour la version PC, je pense. Mais
la version Switch est compétente, quoi.
Ah, la version Switch est ultra compétente. Vraiment, elle est vraiment compétente. Et y a un petit bonus rigolo pour finir dans la version Switch, c'est que donc en plus de la campagne principale, il y a un mode endless, donc qui est tout simplement un mode, c'est le mode horde où tu vas affronter des hordes d'ennemis sur des cartes fermées. Et ils ont créé un niveau qui reprend l'architecture du château de Mario 64, mais en version démoniaque. Donc t'as le château, etc. Et t'affrontes des mecs avec des capuches pointues, avec des choses comme ça, tu vois. Donc c'est une ambiance un peu spéciale. Mais vraiment, je conseille, si vous connaissez pas le jeu, c'est vraiment un bonheur, quoi.
Dusk, ouais. Du coup, ouais, ça ressemble, ça fait vraiment Quake, quoi.
Le style graphique est inspiré de Quake, mais justement, j'insiste sur le fait que ça va largement au-delà du simple hommage à ces vieux jeux, parce que vraiment, en termes de level design, en termes de feeling, en termes de sensation, c'est un vrai bon FPS moderne, et voilà.
D'accord, super. Très bien, donc ça s'appelle Dusk. Écoute, tout ça, c'était l'introduction. Maintenant, on va arriver vraiment aux choses sérieuses. Et Mehdi, c'est sur toi que ça repose. Tous mes espoirs pour cet épisode reposent sur toi, Mehdi. Tu vas nous parler de Inscription. Inscription, qui est un jeu dont j'entends parler depuis des semaines. Et tout le monde en dit énormément de bien. Je crois que, peut-être comme Dusk, il a été fait par une personne, si je ne me trompe pas. Et je vais te laisser en parler, mais je suis hyper curieux. J'ai hésité à l'acheter genre 12 fois. Et donc, je veux savoir si je dois vraiment l'acheter ou pas. Mehdi, dis-nous tout. Qu'est-ce que c'est que Inscription ?
Alors, ce qui va être délicat, Patrick, c'est que c'est vraiment le genre de jeu. Donc, il est sorti récemment. Et c'est le genre de jeu dont il est difficile de parler. Sans spoiler un certain nombre de choses, le problème c'est que si on spoil un certain nombre de choses, ça retire pas mal d'intérêt au jeu. Donc je vais essayer de pas spoiler. Ça c'est vraiment ma mission principale là aujourd'hui en te parlant des Inscription. Je vais essayer de rien spoiler du tout.
C'est très bien. Moi je suis très très adverse aux spoilers, donc aussi peu que possible. Très bien.
Voilà, mais il faut quand même que j'en parle et que j'explique pourquoi est-ce que pour moi c'est peut-être le jeu de l'année, en tout cas une grosse tuerie. Donc effectivement, tu disais que c'était développé par une personne là, en fait c'est le même dev que Pony Island. Je ne sais pas si vous aviez traîné, Jika, tu avais traîné un peu sur
Je connais le jeu mais j'y ai jamais joué.
Ouais. Patrick, un petit peu.
Pareil, spécial. J'en ai entendu parler, mais ouais, c'était effectivement.
C'était spécial. C'était un style de runner, tu sais, les endless runners, là, où tu fais qu'avancer, et puis voilà. Mais le jeu se situait pas du tout à ce niveau-là. J'y ai pas joué non plus, mais on a beaucoup parlé, et c'était apparemment, le jeu se situait au niveau des menus. Tu vois, donc c'était vraiment réfléchir en dehors de la boîte, quoi. Et là, avec Inscription, waouh! Alors comment
le principe de base du jeu quand tu commences, c'est un jeu de cartes, c'est ça?
Alors c'est ça, mais de manière générale, Inscription, si tu veux, c'est un mélange entre, je dirais, Yu-Gi-Oh, Myst. Et un peu, d'une certaine manière, en termes de DA, à un moment donné, un peu Earthbound. Et donc là, je viens de te donner trois jeux, mais attends, c'est comme si je te disais, mix entre Street Fighter 2, FIFA et Civilization. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et pourtant, je vois pas trop comment te le décrire autrement. C'est-à-dire que, effectivement, on est sur une base de jeux de cartes comme... certains et certaines connaissent déjà, j'imagine, Gwent, je disais Yu-Gi-Oh, mais Magic, ce genre de cartes avec des créatures qui ont des forces, de la vie, une attaque, et puis il s'agit de battre ton adversaire en face. Tout ça mélangé, agrémenté de petites saveurs roguelite à la Slay the Spire. C'est-à-dire que on a un parcours qu'on doit faire, on va faire des rencontres, on va y avoir des events, on va devoir faire des choix, et en fonction de ce qu'on fait, ça va, si vous voulez, étoffer notre deck, notre paquet de cartes dans lequel on va piocher à chaque fois pour faire des combats. Ça, c'est ce que le jeu propose les premières heures, on va dire. Les premières heures, on a le sentiment qu'on est sur ce type de jeu-là, dans un contexte toutefois un petit peu chelou. Parce que à tout moment, on peut arrêter de jouer au jeu de cartes et explorer la pièce dans laquelle on se trouve et dans laquelle on joue au jeu de cartes, contre une personne qu'on ne voit pas forcément distinctement, qui est dans l'ombre. Donc il y a un côté horrifique. Il y a un côté un petit peu... t'as le sentiment que là, tu joues une partie de cartes, mais c'est pas juste pour gagner. Et puis à la fin, on se serre la main et on dit... et on veut bien jouer. T'as l'impression que tu joues un peu ta vie.
Ouais.
Tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu comprends pas où t'es. Dans cette même pièce, t'as un certain nombre d'éléments, de puzzles. C'est pour ça que j'évoquais des jeux comme Myst, par exemple. T'as des puzzles qui vont te permettre de peut-être avoir un avantage sur tes parties de cartes, mais aussi de comprendre ce que tu fais ici, ce que c'est en fait, Inscription. Parce que c'est vraiment pas qu'un jeu de cartes, c'est une histoire dans laquelle, au bout d'un moment, on va te mêler, et ça, c'est le genre de truc qui fait des critiques sur moi, vraiment, qui est très très efficace.
Des coups critiques, tu veux dire.
Des coups critiques, tout à fait, ouais. Tout à fait. on va te mettre dans ce jeu. On va un petit peu taquiner le, et pas qu'un peu même, taquiner le quatrième mur.
J'ai l'impression que, en fait, on voit le trailer, rien qu'en regardant le trailer, donc je pense que c'est pas des gros spoilers, tu sens des petites vibes Doki Doki Literature Club, trucs, tu sens que ça va partir à un moment en truc bizarre. Et ouais, donc évidemment, il ne faut pas en parler plus parce que j'imagine que la découverte de ces choses-là, ça fait partie du plaisir du jeu.
Évidemment. Enfin, c'est
évident. Mais ouais.
Moi, j'ai une question. Vas-y, pardon.
Non, vas-y, JK.
Non, moi, ma question est toute bête. C'est que moi, par exemple, je ne suis vraiment pas fan des jeux de cartes de type TCG, etc. Mm-hmm. Est-ce que ça pourrait me plaire malgré tout? Parce que par contre, l'ambiance et le propos me parlent beaucoup plus. Mais par contre, le côté jeu de cartes, ça me... Est-ce que si on n'est pas trop fan de jeu de cartes, ça peut quand même passer, tu penses?
Alors, bah, pour avancer, t'es obligé de jouer aux cartes et de connaître un peu les principes et de t'investir un peu dedans. Donc, si t'es vraiment pas jeu de cartes, ça peut poser problème. Mais ouais, ça D'accord. peut poser problème. Mais
c'est un jeu de cartes qui est complexe ou qui est plutôt abordable?
Non, bah, c'est simple. Là, tu regardes dans le trailer, tu vois des cartes avec des chiffres. Voilà, ça attaque. Oui, tu vois, c'est pas vraiment... Au bout d'un moment, quand même... Oui, non, au bout d'un moment, il y a un certain nombre de règles qu'il faut un petit peu s'approprier pour avancer. Mais il y a tout un tas de secrets à côté desquels tu peux passer dans le jeu. C'est-à-dire, tu peux faire le jeu en traçant et puis... voilà, tu peux le terminer en 7-8 heures. Moi, j'y ai passé un petit peu moins de 20 heures, mais parce que je voulais tous les secrets. Je voulais tout. Là, je vois sur le trailer, il y a une phase où on voit un jeune monsieur qui est devant son PC, qui parle à la caméra, parce que dans le jeu, il y a aussi ça. Il y a un petit côté presque, petite saveur found footage à la Blair Witch, un petit peu. Voilà, t'as l'impression de, encore une fois, d'être de jouer un jeu, mais tu joues pas vraiment un jeu, quoi.
Ouais, donc on a l'impression, l'ambiance que ça donne, c'est genre tu fais un pacte avec le diable et tu joues, à chaque fois que tu vas mourir, tu vas devoir perdre 3 litres de sang.
Des histoires pas claires.
Je crois que Vedantes dans la chatroom l'a bien résumé. Il dit « J'ai rien compris, mais il me l'a vendu ». C'est un petit peu ça. C'est un petit peu cette
ambiance. Je suis désolé, mais parce qu'encore une fois, vraiment, il faut jouer à ce jeu et je me dois de conserver un maximum d'éléments. Enfin, je peux pas spoiler, quoi.
Non, mais
parce
évidemment.
Voilà, ça surprend. Il y a des choses qui vont surprendre. Il y a des choses qui vont choquer. Il y a des passages dans le jeu qui m'ont complètement déstabilisé, qui m'ont fait m'arrêter de jouer. Attends, deux secondes, ça va un petit peu trop loin, là.
D'accord.
C'est un petit peu trop...
N'en dis pas plus.
Ouais.
N'en dis pas plus, je veux... Mais tu disais 7 heures, on peut le finir en 7 heures. Quand tu as dit les premières heures, ça te fait... tu joues à un jeu de cartes uniquement, ça avance quand même relativement rapidement. C'est pas que tu dois jouer un jeu de cartes pendant 15 heures avant de commencer à voir
pas du tout.
Si tu peux le finir en 7 heures, ça avance, quoi.
Ouais, alors 7 heures, entre 7 et 9 heures, c'est quand tu traces. D'accord. Vraiment. Mais la dimension carte, t'es obligé de passer par là. Combat de carte, t'es obligé de passer par là. Et du reste, moi, parce que moi, j'aime bien le principe de carte. Ces trucs-là, j'aime bien. Et dans Inscription, c'est bien fait, c'est bien réfléchi. C'est pas juste. Ouais. On n'est pas sur des cartes DBZ avec des super forces, tu poses et puis t'as gagné. C'est pas ça. Hein. C'est un jeu de cartes. Je veux dire, le jeu de cartes, à lui tout seul, il est déjà bon. Il est déjà bon. Il y a des trucs intéressants. Il y a des cartes, des synergies à découvrir et exploiter, tout ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jeu. Ah, c'est vraiment pas ça. Hein. C'est
D'accord.
vraiment pas qu'un jeu de cartes.
Hein. Ok. Bon, écoute, je ne sais pas beaucoup plus de ce qu'est le jeu, mais du coup, je crois que je vais aller le prendre. En plus, c'est un jeu qui n'est pas très très cher, si je ne m'abuse. Il y a une vingtaine d'euros, quelque chose comme ça.
C'est ça, je crois, ouais.
Ouais. Et du coup, il est sur... j'ai pas donné les plateformes. Je crois qu'il est que sur PC, Inscription.
Ça serait pas impossible, ça m'étonnerait pas.
Je crois qu'il est sur PC. Il est sur Steam. Tac, 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 ouais, je crois que c'est ça. Et on parlait d'autres jeux tout à l'heure. Dusk, du coup, il est sur PC et sur Switch maintenant. Il est sur les autres plateformes ouais. aussi ?
Non, non, PC, Switch.
PC et Switch. Guardians of the Galaxy, par contre, c'est absolument partout. Bah écoutez, je vais vous dire, moi, du coup, un tout petit mot sur Animal Crossing. Mais Patrick, que se passe-t-il ? Tu nous parles d'un jeu qui est sorti il y a quoi, plus d'un an ? Oui, tout à fait. En fait, j'ai lancé Animal Crossing il y a quelques jours de ça pour y jouer avec mon fils. Vous savez que mon fils est toujours un petit peu peureux. Et donc, je cherche souvent, il est tout petit, hein, il a 3 ans, je cherche des jeux auquel jouer avec lui, et j'ai fait des trucs genre Untitled Goose Game, Forza 4, ce genre de trucs. Oui, entre parenthèses, on ne parle pas de Forza 5 aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine, promis, les tests viennent d'arriver, on en parle la semaine prochaine, avec des gens qui savent de quoi ils parlent, mais on en parlera à ce moment, il y a trop de jeux de toute façon, on le dit depuis tout à l'heure, et c'est un exemple de plus de ça. Mais donc, Animal Crossing, comme il y a trop de jeux, je me suis dit, je vais lancer un jeu qui a 1 an et demi, et j'y ai joué un petit peu avec mon fils, et je dois avouer que j'ai compris pourquoi Animal Crossing a un tel succès, et j'y ai même pris beaucoup plus de plaisir que j'aurais cru. Je pense que le jeu s'est vendu à 35 millions d'unités, donc tout le monde sait de quoi il s'agit, c'est que moi qui ne connaissais pas vraiment le plaisir d'Animal Crossing, mais je le découvre avec, comment dire, je comprends le plaisir du jeu et j'y prends moi-même beaucoup de plaisir, cette sérénité, cette paisiblerie. On est sur l'île, on est hyper tranquille. J'ai regardé un let's play des premières minutes avant pour savoir si je devais l'acheter pour y jouer avec mon fils ou pas, pour savoir un petit peu comment ça se passait. Et la femme qui faisait le let's play était vraiment souriante. Dans sa voix, tu l'entendais, quoi. Elle était souriante, elle était heureuse. Et ça se sent dans le jeu. Et je comprends tout à fait qu'en plein milieu de la pandémie, tout le monde a voulu se réfugier sur l'île d'Animal Crossing.
C'était le jeu de la pandémie.
Ah, mais complètement. Ouais. Et du coup, moi, j'y arrive un petit peu après la bataille ou après la pandémie. Mais c'est un plaisir juste, comment dire, C'est j'ai du mal à le décrire, mais c'est juste paisible. Voilà, c'est apaisant. C'est même plus que paisible, c'est apaisant. Et je le comprends bien maintenant. Tu as joué, toi, Mehdi ? Tu étais
ouais.
à Animal Crossing
ouais. Ah, pendant le confinement, c'était. Il fallait quelque chose. Et il y a Animal Crossing qui s'est pointé et ça tombait très, très bien. J'y ai joué avec mes enfants également. J'ai joué avec mes enfants. Alors, j'ai 2 enfants qui ont le même âge, et donc bon, ils s'embrouillaient à chaque fois pour savoir qui allait couper, qui allait récolter les fruits, qui allait pêcher, qui allait. Voilà. Donc, je passais plus de temps à gérer des situations et des conflits et un certain nombre de conflits qu'à être dans la paisibilité. mais oui, je me suis fait des petites sessions. Tout seul, j'ai aménagé. Je me suis surpris à aménager. Là, je vais mettre un petit tapis. On ne sait jamais, parce qu'on peut recevoir dans le jeu, il y a une dimension online. On peut recevoir les gens, peut-être, qui viennent sur mon île. Je n'ai pas envie que ça soit le bordel. Un peu comme à la maison, tu sais, quand tu reçois des gens.
C'est sûr.
Tu leur dis, fais pas gaffe, c'est le bordel. Et que en fait, tu as tout cliné. j'essaie de faire pareil un petit peu avec mon île, mais en visitant les îles des autres, je me suis rendu compte que mon île était toute pourrie.
La pression sociale revient systématiquement.
Ah ouais, non, mais
partout.
À 100%. Les gens sont rentrés, les gens ont fini le game, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans des trucs. Je suis parti sur des îles où il y avait des labyrinthes, il y avait des parcours, t'étais reçu comme un chef d'État, alors que moi, tu descends de l'avion, je suis même pas là pour t'accueillir, toi, je suis en train d'essayer de creuser des trous pour trouver des pièces. Et puis chez moi, c'est dégueulasse. Mais j'ai surtout vu des îles, sur lesquelles les gens avaient passé énormément d'heures. Et c'était agréable. Et c'était agréable, c'est vrai. C'est vrai que c'est agréable.
Alors, moi, le seul truc que je lui reprocherais, en fait, on a joué, c'était sympa. Il voulait aller voir Bichoun et comment il s'appelle l'autre Gilbert et leur dire bonjour, tout ça. Et à un moment, on est allé secouer des arbres et il y a des abeilles, il y a une ruche qui est tombée et des abeilles qui sont venues nous attaquer. À partir de là, il a plus voulu jouer, le pauvre. Il a dit « Oh non, je veux plus jouer à ce jeu !» Il est parti, il a eu un peu peur. J'ai dit « Mais on n'a pas dit bonjour à Albert aujourd'hui !» À Gilbert aujourd'hui. Bon, quand même, on est revenu dire bonjour à Gilbert, mais c'était fini. On verra le week-end s'il va vouloir jouer un petit peu plus, mais les abeilles lui ont vraiment fait peur. Donc, j'étais un petit peu... Je lui ai promis qu'on ne bougerait plus les arbres pour ne pas faire tomber les abeilles. Mais il faut des branches. Comment choper les branches quand on a chopé toutes celles qui sont par terre et si on ne peut pas secouer les arbres ? Donc, bon, bref. Donc j'ai apprécié Animal Crossing et la mise à jour du 5 novembre est en fait disponible dès maintenant. On est le 4 au moment où on enregistre et si vous updatez manuellement le jeu dans les menus, et ben vous pouvez jouer à la mise à jour qui arrive, qui est une énorme mise à jour. Il y a la version payante, enfin il y a une mise à jour payante qui arrive demain et la mise à jour gratuite est déjà dispo, donc ça ajoute plein de choses, on en reparlera peut-être un jour. Bref, voilà pour Animal Crossing. Darkest Dungeon 2, Mehdi, celui-là aussi. Alors moi, j'ai pas joué au 1. Enfin si, je l'ai, j'y ai joué un petit peu. C'était quand même un petit peu, comment dire, déprimant.
Oui, c'est ça.
Voilà. Le 2, c'est pareil. Alors, bon, peut-être expliquer, c'est un jeu de stratégie, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un Early Access qui vient d'arriver il y a quelques jours. Enfin, il y a deux semaines, peut-être. Darkest Dungeon 2, dis-nous en deux mots.
Alors, bon, ben, donc, c'est la suite du 1. Ça, c'est parfaitement original. Et ça se situe dans un monde, ben, tu vois les images ? Voilà. Donc, ça se situe dans un monde après l'élection d'Éric Zemmour en 2022. Non, je plaisante, mais c'est
tu veux dire que c'est un jeu d'horreur, quoi. C'est ce que
non, c'est le Darkness. Le premier était sorti, or je crois qu'il était issu d'un financement participatif, mais je pourrais pas te l'affirmer à 200%. JK, peut-être si tu te souviens de ça.
Je crois que oui, si, mais là tu m'es aidé au mur, donc je vais dire que oui.
On va dire que oui. D'accord. La position officielle du rendez-vous oui, jeu. Crois, il me semble, ouais. La position officielle du rendez-vous jeu par consensus, c'est oui.
La moitié de ce genre de jeu sorti il y a moins de 10 ans a été financé sur Kickstarter,
ouais.
Donc
oui, ouais, c'est vrai.
Ouais, ouais.
Partons du principe que oui.
Ouais. Et donc le premier, c'était un style de... Bon, ben, c'était le Darkest Dungeon. Tu t'allais dans des... C'était un style de dungeon crawler, en fait. Un peu RPG, voilà. T'allais dans les donjons et t'essayais de t'en sortir. Tu formais des équipes, tu recrutais des personnages avec différentes classes, différentes compétences, tout ça. Et t'allais... Et puis, les survivants qui rentraient, parce que t'étais pas sûr, des fois, de terminer ta mission et de rentrer vivant. Les survivants qui rentraient... avaient tout un tas de traumatismes, tout un tas d'issues qui nécessitaient que tu dépenses des sous et du temps pour essayer de un petit peu les soigner. Et donc, tu repartais avec d'autres équipes. Et voilà, tu allais piocher dans ton pool de plusieurs dizaines de personnages pour aller essayer d'aller dans le Darkest Dungeon pour essayer de détruire le mal, un mal qui s'était installé et puis qui faisait qu'à prendre de l'ampleur.
Et le truc, 2... c'était vraiment, donc en type un petit peu roguelite, on avait plein de persos, et quand tu dis ils avaient plein de problèmes, c'était tu peux devenir fou, tu peux devenir paranoïaque, tu peux devenir...
C'est ça.
Y a vraiment
c'est ça. En plus,
de troubles psychologiques profonds qui vont affecter les héros avec lesquels tu joues au cours de ces aventures. Ouais.
En plus de ta barre de vie, tu avais une jauge de stress, en fait, qui, quand elle était pleine, faisait péter un câble à ton personnage, qui, du coup, derrière, se mettait à faire n'importe quoi. Parfois, quand c'était à ton tour d'agir, parce que les combats, c'est du tour par tour, hein, de base, avec une stat de rapidité pour savoir qui joue avant qui. Et au bout d'un moment, tes personnages, ils faisaient n'importe quoi, ils t'écoutaient plus, ils s'embrouillaient entre eux, ce qui augmentait encore plus la jauge de stress des autres. Enfin, c'était vraiment...
Mais c'est pas genre...
Épisode.
C'était pas quand ton perso a maxé sa jauge de stress, tout à coup, il est injouable. C'est juste que t'as une sorte de comportement incontrôlé qui va faire qu'il est plus difficile à jouer. C'est un debuff bizarre, mais c'est pas que du coup, tu le jettes et tu peux plus jouer avec.
Ah non, pas du tout.
Au contraire,
ça
fait partie du jeu, quoi.
Voilà, et tu avais même certaines classes ou certains persos qui avaient des traits particuliers qui, justement, eux, devenaient complètement efficaces une fois que le stress et le darkness les avaient complètement envahis, quoi. Donc, c'était...
Genre l'assassin psychopathe, ça lui va très bien.
Ouais, oui, le flagellant qui se faisait du mal pour essayer de combattre le mal, enfin, tu vois, avec cette philosophie de... on combat le feu par le feu. Mais ce qui ressortait de tout ça, du premier, c'est que c'était très difficile, c'est qu'il fallait pas t'attacher à tes personnages. Tu sais, tu pouvais les nommer, les équiper, tout ça. Eh ben, en fait, fallait pas du tout t'y attacher.
Combien de Moguri sont morts dans ton équipe
Énormément, beaucoup trop. Beaucoup trop pour que je le regarde en face.
Ah oui, je comprends. Aujourd'hui.
Donc, non, c'était vraiment le darkness, quoi. Mais c'était un excellent jeu parce qu'une direction artistique folle, un gameplay puissant, réfléchi. Enfin, il n'y a rien à dire sur Darkest Dungeon 1. Et ce qui est bien, c'est que le 2 est surpuissant. Je vais t'en parler quelques minutes, mais il ne rend pas du tout obsolète le 1. Parce que c'est pas le même style, en fait. Le 2, c'est pas le même style. Je sais que ça a déstabilisé les gens. Le premier, encore une fois, c'est Dungeon Crawler avec des saveurs un petit peu RPG. T'as un budget à gérer et toute une équipe, un pool de plusieurs personnages à gérer. Le 2, ça prend un peu plus de mécanique de roguelite. C'est-à-dire que le 2, il s'envisage en termes de run à la manière d'un... Hades ou Slay the Spire ou des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça que tu l'approches. C'est vraiment en termes de run. Il y avait des gens qui étaient déstabilisés parce qu'ils s'attendaient à ce que le 2 soit du 1, mais avec encore plus de personnages, plus de contenu, plus de donjons, tout ça. Moi, je trouve qu'ils ont bien fait de changer un petit peu la recette. Tout en gardant la même DA, hein, la même DA qui fonctionne, avec, pour le coup, là, des personnages en 3D mieux animés. Et donc ça fait plaisir.
C'est super, super beau, d'ailleurs. Le passage de la 3D fait des animations incroyables, des animations, enfin des effets de lumière. C'est très, très, très beau. Hein.
Il est magnifique. Il est juste magnifique. Et le principe dans Darkest Dungeon 2, c'est... le 2, en fait, te met au courant que ce que tu as fait dans le 1, bon, ben finalement, ça n'a pas marché. Parce que le darkness s'étend à tout ce qui t'entoure, quoi, au monde entier. Et dans le 2, tu te retrouves dans une diligence qui part du domaine dans lequel se déroulait le 1 et qui a pour mission d'à la fois ben, un petit peu fuir. Comme on peut voir, et puis essayer d'aller à la source, en tout cas à une des sources du mal, pour sauver ce qui peut l'être encore, quoi. Et donc, c'est surprenant parce que tu commences en dirigeant une diligence, et c'est pas forcément, tu sais, c'est pas aussi...
Non mais genre Forza, tu diriges la diligence sur droite-gauche, tu conduis la diligence, quoi.
C'est ça, c'est pas aussi smooth qu'un Red Dead Redemption quand t'as ton cheval. Et puis t'es là, tu comprends pas trop ce que tu dois faire avec ta diligence, mais plus tu fais les runs et plus tu comprends le délire. Et dans cette diligence, voilà, tu vas recueillir quatre héros qui vont essayer de. Et là, par opposition au premier, tu dois plus choisir dans un pool d'héros. Voilà, t'en as 8 en tout, il me semble, 4 que t'as à la base et puis 4 que tu dois débloquer. Par la suite, et avec ces héros-là, tu dois aller jusqu'au bout, quoi.
Tu ne peux pas changer de héros en cours de route parmi les 8
Non, tu ne peux pas changer. Ce qui peut se passer, c'est que tu perds des héros, parce qu'évidemment, c'est permades. Quand il y a quelqu'un qui meurt, il est mort. Tu peux perdre un héros, et puis arriver au pit stop suivant, à l'étape suivante, à l'auberge, en fait, suivante, et retrouver un autre héros. Tu vois, si d'aventure, tu as t'en as débloqué. Voilà ce qui peut se passer. Mais autrement, non, tu ne peux pas changer des trucs comme ça de héros à la volée, quoi. Et en termes de mécanique de combat, ça reste sensiblement la même chose. C'est-à-dire que c'est du tour par tour. Il y a des compétences, il y a des faiblesses au saignement, au poison, tout ça. Et c'est galère. Alors, des gens étaient aussi également déstabilisés, parce que là, on est vraiment sur le 2, c'est une version en accès anticipé. Il n'y a pas encore tout, mais ça me va très, très bien. Les gens étaient déstabilisés parce qu'ils le trouvaient plus facile. Tu sais, le premier Darkest Dungeon était vraiment... Il te punissait dès lors que tu faisais un choix un petit peu discutable ou moyennement inspiré, tu vois. Il te punissait, peut-être parfois trop durement. Celui-là, au bout du... à mon deuxième run, je suis arrivé au boss, j'ai terminé. Alors, encore une fois, on est sur une version en accès anticipé. Hein. Mais je suis arrivé au boss et j'ai fini le boss. Mais... Et du coup, tu peux avoir ce feeling, en particulier sur les jeux en accès anticipé. Putain, j'ai pas trop envie d'y jouer parce que si je joue trop à la version anticipée, quand la V1 va sortir, quand le jeu final va sortir, j'y verrai beaucoup moins d'intérêt. Je serais déjà stuffé, j'aurais déjà des trucs et tout. Mais il se trouve que Redouk Studios, comme d'autres studios talentueux, arrive à sortir, comme ça avait été le cas pour Hades avec, je sais plus comment il s'appelle, le studio de
Super
Hades,
Giant Games.
Super Giant Games. Eh ben, c'est des studios qui arrivent à sortir des accès anticipés, qui ont un intérêt et qui vont te fournir des choses au fur et à mesure du développement, des retours qu'ils vont avoir, de la vitesse à laquelle ils vont avancer. Et qui font que l'expérience, en fait, tu peux la vivre en accès anticipé. Et quand ça sort en V1, tu peux la vivre en V1, il n'y a pas de problème. Mmh. D'autant que sur un système de roguelite comme Darkest Dungeon 2, ça marche très bien, quoi, parce que ça comprend le fait de... dans son game system, ça comprend le fait que tu vas perdre ou tu vas terminer, mais on va relancer un run, quoi.
Ouais.
Donc... C'est Darkest Dungeon 2, c'est vraiment la puissance. Vas-y.
Non, vas-y, fini.
C'est vraiment la puissance parce que là, pour le coup, autant dans le premier, les persos, ils étaient un petit peu anonymes. Tu sais, tu recrutais des personnages, tu pouvais leur donner un nom, changer la couleur des cheveux, tout ça, essayer de leur insuffler une histoire. Mais encore une fois, comme je disais, il ne fallait pas t'y attacher parce qu'il y a une grande chance qu'il saute, ce personnage. Là dans le 2, il y a un focus qui est fait sur les personnages tu vas découvrir leur histoire, en fait. Chaque personnage a une histoire et tu vas découvrir ça pendant ton run. Si tu fais les bons choix, si tu passes par les bons endroits, tu vas avoir la possibilité de découvrir le passé. Voilà, qu'est-ce qui fait que ce maître d'armes en est là aujourd'hui et s'est retrouvé dans cette diligence avec ces autres personnes, avec cette ambiance, avec ces compétences, avec ce truc-là. Tu vas découvrir l'histoire des personnages. Et les histoires des personnages, je les trouve bien écrites, évidemment, appuyées par cette voix off qui est là et qu'on connaît et qu'on kiffe. Tu sais, c'est cette même voix qui, dans le premier, disait « Rune has come to our family ». Et t'es là et tu sens que c'est le darkness, tu vois. T'as envie qu'elle t'accompagne, mais en même temps, tu sais qu'elle te donne toujours des mauvaises nouvelles. Mais du commenter coup, quand tu fais des erreurs.
Quand tu dis que c'est roguelite, c'est-à-dire que tu vas continuer ton run jusqu'à ce que tu aies épuisé le pool de tous tes personnages, et ensuite, jusqu'à ce que tu aies utilisé les 8 ou ce que c'est, ou que tu sois mort avant la prochaine auberge.
Non.
Quand tu recommences, tu reprends les personnages qui sont morts, c'est ça que je comprends.
Non. Oui, c'est ça, c'est-à-dire. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire, quand tu recommences avec les mêmes personnages, mais qui n'ont pas forcément les mêmes traits. Donc, à l'instar du premier, les personnages ont des traits positifs ou négatifs. Tu vas avoir quelqu'un qui, par exemple, qui va être optimiste, et concrètement, ça va être pendant les combats ou pendant le voyage, va sortir des petits trucs optimistes, même quand c'est le darkness, pour essayer de remonter un peu le moral ou la jauge de stress, puisqu'il y a toujours une jauge de stress dans le deuxième. T'en as d'autres qui vont être kleptomanes ou qui vont être grincheux. Et ces traits-là...
Et donc ces traits-là, ils vont changer d'un run à l'autre, mais c'est les mêmes personnes.
D'un run à l'autre. Et en fait, d'un run à l'autre, quand tu termines un run ou même quand tu le termines pas, quand tu avances et tu perds, tu vas marquer un certain nombre de points. Comme dans une partie de FTL ou un truc comme ça, tu vas marquer un certain nombre de points en fonction des actions que tu as faites. Et ces points-là, ils vont faire augmenter un niveau général. Ce niveau général, c'est la partie un petit peu méta de Darkest Dungeon 2, c'est-à-dire que c'est en débloquant, c'est en augmentant de niveau général que tu vas débloquer des nouveaux traits, par exemple, pour tes personnages, mais également des nouveaux objets qui vont être, du coup, compris dans le pool de ce que tu vas pouvoir, si tu as de la chance, débloquer pour tes runs, pour tes runs suivants. C'est-à-dire que tu vas débloquer des choses qui vont rendre tes prochains runs peut-être un peu plus vivables, quoi. Voilà.
Ouais, bah, mais le comme principe du roguelite...
Voilà, c'est le principe d'accord. du roguelite, comme un Dead Cell.
Ça donne envie. On n'a pas vraiment parlé du système de combat, mais c'est le même que le 1. En gros, c'est ce système tour par tour où on a les quatre personnages l'un devant l'autre, donc en position en groupe, qui font face sur un plan horizontal l'un devant l'autre à la queue leu-leu, en quelque sorte, qui font face au groupe d'ennemis, qui vont être 2, 3, 4, 5, ce que c'est. Et donc, il y a la position qui est importante, et puis le tour par tour va prendre son style de jeu classique. Enfin, c'est du tour par tour classique, mais la position est importante, etc. Il y en a un qui va être devant. Ouais.
C'est ça. Donc, en fonction de la classe, évidemment, il faut réfléchir à la position, parce que tu as des compétences qui ne peuvent pas être lancées quand tu es au front ou quand tu es derrière, en fonction de ta classe. Donc, évidemment, ça se réfléchit. Il y a un build. Hein. Tu dois construire tes personnages au fur et à mesure de ton run, quoi. Et quand la chance est avec toi, tu peux faire des belles choses. Quand elle n'est pas avec toi, c'est la déprime.
Écoute, deuxième jeu sur deux que j'ajoute à ma liste de jeux que je veux. Donc bravo Mehdi, tu me fais dépenser des sous. Très bien. Il est en early access sur l'Epic Game Store uniquement, si je ne me trompe pas. Donc c'est là-bas qu'il faut se diriger pour le prendre. Et lui aussi, il n'est pas très très cher, en tout cas en early access. Et d'après Mehdi, ça vaut plutôt le coup.
Ça vaut complètement le coup.
Complètement le coup. Merci beaucoup, Mehdi. Continuons, avançons. Je vais dire juste deux mots sur Unpacking. Unpacking, qui est un jeu dont j'avais déjà parlé parce que j'avais fait la démo. Il y a, au moment de l'été, il y avait le festival des démos de Steam. C'est un jeu où, ben, comme son nom l'indique, on ouvre des cartons de déménagement et on va remettre les affaires qui sont dans les cartons à leur place. Au cours de différents tableaux, en quelque sorte, qui suivent les années. Et c'est un jeu qui est très très simple, graphisme style 16 bits, on va dire, et qui est vraiment un jeu très simple. C'est vraiment, on ouvre des cartons et on met les choses qui sont dans les cartons, dans ces graphismes 3D isométriques, sur les meubles où ils devraient être. Donc on va ouvrir, on va avoir des vêtements, on va les mettre dans les armoires, des peluches, on va les mettre sur les lits, etc. Et c'est ce gameplay ultra simple qui m'avait vraiment plu lors de la démo. Ça, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est de l'art vidéoludique, mais complètement, parce que le gameplay, c'est une chose, il n'est pas hyper intéressant, mais le gameplay, c'est une chose, il y a surtout l'émotion qui passe par ce qu'on découvre de la vie de la personne dont on ouvre les cartons. C'est incroyable comme ça fait passer des choses simplement en espionnant un petit peu comme un espion, enfin pas un espion, mais un voyeur, en regardant...
Ouais, voilà, comme une personne problématique, j'allais dire.
Ouais, bon. un petit peu. On a des caméras de surveillance placées dans toutes les pièces. C'est surprenant de voir à quel point ça fait passer des choses, vraiment. Parce que le truc qui est peut-être pas clair, c'est que on suit la personne qui déménage à travers les années. Et au début, bah, on voit que c'est une chambre d'adolescente, c'est une femme en l'occurrence, donc c'est une chambre d'adolescente. Et puis petit à petit, la deuxième fois, c'est on déménage et puis on est au lycée, puis on est en coloc, et puis etc., etc. Et il y a peut-être, je donne juste un exemple, mais sur le premier tableau, il va y avoir 7 ou 8 peluches. Le deuxième, il n'y en a plus que trois. Et tu retrouves l'une des peluches que tu avais pris la fois d'avant et tu dis « Ah, oh, mais c'est cette petite peluche. Mais » Mais tu sens, il y a une sorte de mini-nostalgie. Tu vois que, bah oui, maintenant, il n'y en a plus parce qu'elle est un peu plus grande. Je ne sais pas si c'est une question d'âge qui fait qu'on va peut-être être au bon moment de sa vie pour être touché par ce genre de choses. Mais fonctionne vraiment sur moi. Peut-être un tout petit bémol, peut finir par devenir un peu répétitif d'ouvrir systématiquement les cartons. Et puis, il y a quelques objets qui doivent être, qui ne peuvent pas être à des endroits spécifiques. Et donc, qui sont un petit peu frustrants parce que t'as tout sorti, t'as mis un objet à un endroit et il te dit, le jeu te dit, ah bah non, celui-là, il peut pas être là. Et tu cherches où tu dois le mettre, mais après, tu dois déplacer d'autres trucs parce que tu te rends compte, ok, celui-là, il devrait être là, mais attends, je dois virer les autres trucs et puis t'arrives pas à tout rentrer. Enfin bref, ça peut devenir un petit peu frustrant, les maisons deviennent de plus en plus grandes. Mais bon, j'imagine, je l'ai pas fini, hein, mais j'imagine que c'est pas un jeu très très long non plus. Et je suis vraiment curieux de savoir ce qui va advenir de cette jeune femme maintenant. Et tout ça, rien qu'en ouvrant des cartons, c'est artistiquement assez incroyable et extrêmement bien réussi. Et je continue à être impressionné par ce petit jeu qui est, on dit en anglais, full of heart. Il a vraiment plein d'émotions, plein de cœur. Et c'est une petite gemme qui ne va pas plaire à tout le monde, certainement, mais qui va marquer ceux qui l'apprécieront, je crois. Donc,
Je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une trame scénaristique avec un début et une fin? Parce que c'est marrant ce que tu me racontes, découvrir la vie d'une personne à travers ce genre de choses. Ça me fait penser à Gone Home dans un style très différent, en tout cas visuel. Ouais. Mais est-ce qu'il y a ce feeling-là un petit peu, ou est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une histoire que tu suis et tu as envie d'avoir un dénouement, ou pas vraiment?
Oui, tu suis. Alors, c'est pas une histoire dans le sens où, un petit peu comme Gone Home.
Par exemple.
Non, aucune voix off. Il y a rien. C'est hyper minimaliste, beaucoup plus que Gone Home. D'accord. Et c'est pas, il y a pas, comment dire, un mystère ou un truc à dénouer ou tu vois. C'est pas que tu y a une question à laquelle tu vas répondre. C'est juste que tu observes le parcours de cette personne dans sa vie. Tu as un regard sur ce qu'elle était quand elle était jeune, quand elle était enfant. Et puis, tu te rends compte que tu vas suivre toute sa vie, j'imagine, jusqu'à la fin. Je ne suis pas encore au bout, mais j'imagine jusqu'à la fin. Je peux tout à fait imaginer qu'à la fin, bah, tu dois mettre les choses dans des cartons parce que tu es, je sais pas, l'enfant. Je ne sais pas du tout, hein, je ne l'ai pas vu, mais tu es l'enfant et tu dois mettre les choses dans les cartons. Et c'est le reverse du truc, tu vois, pour, parce que la personne soit dans une maison de retraite. Ou, tu vois, c'est ce parcours que tu dois suivre, ce parcours de vie que tu vas suivre jusqu'au bout. Mais sans aucune narration. Hein. C'est ça qui est fort. C'est qu'il n'y a aucune forme narrative autre que les choses qui sont dans les cartons quand la personne déménage. Ou que tu sors des cartons quand la personne déménage. Donc, j'oublie de le préciser, c'est un jeu qui est arrivé en stealth sur Game Pass. Au moment de la sortie, c'est pas le premier, je crois que Boyfriend Dungeon avait fait ça aussi. Ils avaient pas du tout annoncé qu'il serait sur Game Pass, j'imagine pour pas limiter les ventes des gens qui voudraient l'acheter. Et le jour de la sortie, il était sur Game Pass. Et je me dis, sur ce genre de jeu, il y a un pattern. Ce genre de jeu, ça peut affecter les ventes parce que tu dis, oh, celui-là, il sera peut-être sur Game Pass, je ne vais pas l'acheter pour le cas où il y arrive. Mais il est disponible donc sur Switch, PC et Xbox. Je crois qu'il n'est pas sur PlayStation. Et il est sur le Game Pass, au moins sur console, peut-être sur PC aussi. Donc, si vous avez le Game Pass, vous pouvez le tester et je pense que vous serez charmé dès le début. Quoi.
Là, je vois les images, j'ai l'impression que c'est vraiment un jeu de daron, quoi. Il faut avoir
non mais c'est vrai,
déménager un certain nombre de fois pour comprendre la valeur sentimentale que tu peux mettre dans un certain nombre d'items, le sens du unpack, d'ouvrir des cartons, tout ça. Quand t'es un adolescent, ou une adolescente, tu passes à côté de ça. Mais quand t'es un daron, et donc je dis ça parce que j'ai déménagé moi il y a un mois et demi, tu vois. Et là, je vois les images et je dis, ah, oh, putain, j'ai envie de.
Tu sais, moi j'ai déménagé peut-être, je sais pas, 30 fois dans ma vie, donc oui, ça me parle beaucoup.
Ouais.
Donc voilà, c'est Unpacking qui est, comme je le disais, sur Game Pass. Bon, on va conclure cette série de jeux avec Resident Evil 4 VR et Lone Echo 2 VR, dont JK va nous parler. On peut peut-être dire un petit mot sur Resident Evil 4 VR et puis Lone Echo 2. Dis-nous.
Ouais. Ça a été le mois plutôt des bonnes surprises en jeu en VR. Alors je précise déjà que c'est les deux jeux, que ça RE4 VR ou Lone Echo, sont des exclus Oculus Quest, enfin Oculus tout court. Resident Evil 4 VR est un jeu Oculus Quest, donc c'est-à-dire que c'est un jeu, tu n'as pas besoin d'un PC pour y jouer, tu as un Oculus Quest, tu le télécharges, tu y joues. Lone Echo 2 par contre est un jeu PC, donc je pense que tu peux techniquement y jouer avec un autre casque que l'Oculus, même si au niveau des contrôles j'ai un peu peur que ça soit compliqué. Alors, rapidos, Resident Evil 4 VR, écoute, moi, c'est vraiment un jeu que j'attendais plus par curiosité, mais j'étais pas plus emballé que ça. Je dis, ils nous ressortent une énième version de Resident Evil 4 qui a déjà été portée 50 milliards de fois. C'est un jeu extraordinaire que moi j'avais adoré à l'époque. C'est une référence de l'action, etc. Mais c'est un jeu, c'est vrai, qui avait quand même, en tout cas aujourd'hui, qui est assez rigide, en tout cas sur les versions HD qu'on peut avoir sur PC ou sur console. Et la très bonne surprise, c'est que justement, en passant en vue de la première personne et en VR, Resident Evil 4 devient excusez-moi le terme, mais un putain de bon FPS en fait, parce que on peut enfin se déplacer et tirer en même temps, on peut esquiver avec des mouvements, et en fait ça, on redécouvre en fait le rythme et la mise en scène du jeu qui pour le coup vieillit incroyablement bien, quoi. L'intensité de l'action de Resident Evil 4, moi je l'ai redécouverte avec cette version VR, notamment les scènes de siège, évidemment, où t'es assiégé dans une maison avec plein d'ennemis autour. Ça marche ultra bien, les contrôles sont extrêmement réactifs, t'as plein de modes de contrôle différents pour t'adapter à tout style de jeu en VR. T'as des trucs très immersifs où tu vas récupérer tes armes sur tes épaules, tu vas récupérer ton spray en l'attrapant sur ton torse, etc. T'as un mode plus classique où là t'as une roue des armes que tu sélectionnes, etc. Tu peux te déplacer soit en téléportant, soit en déplacement classique FPS. Donc vraiment c'est adapté à tous les types de joueurs au niveau VR, et c'est vraiment mortel. Franchement c'est une redécouverte du jeu que je pensais pas aussi réussi. Alors visuellement évidemment ça vieillit un poil, mais c'est l'équivalent de la version HD qui est sortie sur PC. C'est pas un remake, on est sur le moteur d'origine, mais par contre l'action est d'une intensité assez folle, donc c'est vraiment une bonne surprise.
D'accord, donc Resident Evil 4 VR, plutôt une bonne surprise, et Lone Echo 2, si je ne me trompe pas, c'est le jeu VR le plus acclamé et qui utilise le mieux la VR de l'histoire, possiblement, selon les fans. Le 2 était très attendu.
C'est un des jeux, bien sûr. Le 1, effectivement, c'était un des meilleurs jeux, et ça allait toujours un des meilleurs jeux à faire en VR. Je ne sais pas si Mehdi, tu as joué, toi qui es plutôt branché VR.
Heureusement, non, parce que c'est pas de l'exclu Oculus.
C'est Oculus Store, mais après je pense que tu peux y jouer avec le Vive, mais il faut bidouiller.
J'évite de bidouiller de manière générale.
Et puis en termes de contrôle, c'est vraiment pensé pour les contrôleurs de l'Oculus. Et donc c'est un jeu. Enfin, en tout cas, c'était un excellent jeu où tu t'incarnais un androïde dans une station spatiale et t'étais en binôme avec une femme, le capitaine que tu vois là, donc Liv. Liv, et toi tu t'appelles Jack. Et ce qui était extrêmement réussi, et ce qu'il est toujours dans le 2, c'est la relation que tu as avec ce personnage. Il y a vraiment une relation d'amitié extrêmement forte, et c'est con à dire, mais il y a vraiment une très très belle histoire entre cette humaine et toi qui est un androïde, sachant que tu as tout un système de réponses à choix multi. Quand elle te parle, tu peux répondre, tu peux plus ou moins influencer la façon dont tu te comportes avec elle, un petit peu comme dans Firewatch. Et derrière ça, il y a un gameplay en VR qui fonctionne super bien, qui est pas basé sur les déplacements à pied, puisque t'es constamment en apesanteur, donc tu te déplaces avec des espèces de boosters en fait qui te permettent de flotter et te déplacer, etc. Et surtout, la sensation de présence, c'est la chose la plus réussie que j'ai vue dans un jeu VR. C'est que en fait, quand tu poses ta main sur une surface, t'as déjà un retour de vibration qui est vraiment très bien fait, et t'as vraiment l'impression d'être présent dans l'univers. Donc tu peux t'agripper partout, tu peux te projeter en t'attrapant des trucs, t'es en gravité.
Les déplacements, pour expliquer vraiment aux gens qui connaissent pas du tout, t'as effectivement des sortes de petits boosts qui vont te fonctionner comme des mini-réacteurs, en quelque sorte. Et tu peux t'accrocher à toutes les surfaces et te déplacer comme si tu étais dans la station spatiale. Et tu t'accroches et tu avances en te tirant sur les surfaces, les rails, les trucs comme ça, parce que tu es en apesanteur. C'est vrai que ça fonctionne très bien. Ouais.
Voilà. Et en fait, le 2... Alors, moi, par exemple, je conseille vraiment pas de jouer au 2 si vous n'avez pas fait le 1, parce que le 2 est vraiment une suite directe au 1. Le 1 se termine sur une espèce de cliffhanger, et le 2 reprend un quart d'heure après, quoi. Donc, vraiment, si vous n'avez pas fait le 2, c'est ça, si vous n'avez pas fait le 1, il faut vraiment faire les deux à la suite, c'est vraiment un ensemble. Et en plus, le 2 est très très bien. Il est à poil décevant entre guillemets, parce que il y a finalement assez peu de nouveautés en termes de gameplay. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un gameplay d'exploration avec des énigmes, des énigmes environnementales. Il y a pas de combat. Enfin, je veux dire, t'as pas d'armes. Enfin, dans le 2, t'as vite fait une arme, mais c'est vraiment pas le propre du jeu. Le but, c'est justement de te démerder pour te sauver d'une situation, d'un ensemble de situations merdiques. Donc, aller réparer des trucs, bouger des objets, etc. Et donc ça, là-dessus, ça bouge pas trop. Il y a pas énormément de nouveautés. Je trouve que le début du 2 est un peu mou du genou. Il faut bien une heure et demie avant que ça décolle. C'est des jeux qui se font entre 8 et 10 heures chacun. Donc c'est pas, enfin, pour un jeu en VR, ça reste plutôt long. Ouais. Par contre, c'est super beau. Si vous avez un PC qui tient la route, notamment le 2, t'as à un moment donné, t'as la zone principale qui est tout simplement les parce que tu vois là, c'est les anneaux de Jupiter. En fait, t'es vraiment en orbite autour de Jupiter et autour. Toi, Mehdi, qui aime bien la SF, vraiment, c'est incroyable.
Mais non, mais là je vois les images.
Sors, ouais.
Je vois les images, mais j'imagine, gars. Je vois les images.
C'est incroyable.
Je suis très triste de ne pas,
achète-toi un Oculus Quest.
Bah non, mais le problème, c'est que si je veux switcher en mode Oculus, il faut que je me mac avec Facebook.
À partir de l'année prochaine, tu n'auras plus besoin d'un compte Facebook, c'est ça, pour
c'est vrai
ouais, ouais, c'est ce qu'ils ont annoncé. On va en parler dans une seconde.
C'est pareil, ouais.
Ah, d'accord.
Ouais.
Mais moi, j'ai essayé de le lancer. J'ai acheté le 1 et le 2, j'ai essayé de les lancer. J'ai eu des gros problèmes pour reconnecter mon Oculus Quest. Le link en Wi-Fi, alors que ça marchait hyper bien quand j'utilisais un truc third party, là, c'est pas très très bon. Ah. Ça saute un petit peu tout le temps. J'ai essayé de connecter avec le câble. Il a pas reconnu, alors que je sais que le câble fonctionnait sur mon ancien PC. C'était un bon câble prévu pour. C'est un peu frustrant, quoi.
Alors, je sais pas, je pense pas que ce soit lié au jeu, parce que moi, j'y ai joué aussi en Airlink, chez moi, avec un Wi-Fi correct, on va dire. Évidemment, moi, dans la même pièce, hein, que mon PC. De temps en temps, j'avais pas de déconnexion, mais de temps en temps, j'avais des petits freezes, mais qui étaient pas gênants.
Pas gênant,
c'est pas forcément gênant. Le jeu est quand même assez gourmand, il faut quand même une bonne machine pour y jouer, que ce soit le 1 ou le 2. Le 2 est un poil plus beau, mais il n'y a pas une énorme différence. Donc vraiment, c'est vraiment un diptyque, on dit un diptyque,
ouais,
qui est vraiment super à faire, parce que c'est une super histoire, c'est des personnages hyper attachants, c'est un jeu qui fonctionne super bien en VR, en termes d'immersion, c'est top. Donc, je vous le conseille vraiment, quoi.
Et en termes de cinétose, est-ce que vous êtes sujet à la gerbe, en fait, quand vous êtes... tu te déplaces, tout ça. Mais ce sentiment de gerbe, tu peux l'avoir quand il y a une différence en ce que tu vois et ce que tu fais avec ton corps.
Ouais.
Là, t'es en apesanteur, tu te propulses.
Ça fonctionne pas bizarre, trop mal avec le mode de déplacement, justement, s'accrocher avec les mains, s'accrocher aux surfaces. Moi, je trouve que ça fonctionne pas mal parce que les mouvements de tête, en fait, circulaires, c'est uniquement avec la tête, t'as pas de déplacement. Qui sont vraiment complètement déconnectés de ce que tu fais toi avec tes mouvements. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Ouais. C'est mieux que les endroits
par exemple, tu vas pas te déplacer avec le joystick pour avancer. Tu vois, c'est vraiment tu te déplaces
en
donnant des petits à-coups avec des propulseurs. Et du coup, pour moi, c'est le contraire. C'est-à-dire que là, dans un jeu comme ça, t'as beaucoup moins de cinétose parce que t'es pas relié au sol. T'as pas ces sensations de marcher alors que tu marches pas. Alors que Resident Evil VR, par exemple, c'est un FPS. Moi, ça me dérange pas. J'ai l'habitude, donc je joue en mode FPS. Mais par contre, il y a des gens chez qui c'est que ça rend malade et c'est tout à fait compréhensible. Ouais. Du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis un mode de téléportation. Là, le Neko 2, justement, joue vraiment sur la pesanteur et ça empêche justement d'être malade, quoi.
Bah écoutez, ça fait envie là encore, c'est un petit peu plus cher que les jeux en Early Access de Mehdi parce qu'il faut acheter un casque VR, mais si vous en avez un, c'est... Ah non, ouais, voilà. En plus, hein. Et comme on le disait, alors, on va avancer parce qu'on a encore quelques trucs dont je voudrais parler. On va pas du coup énormément parler de des annonces de Facebook, si ce n'est que ils ont annoncé plein de choses. Allez voir dans le rendez-vous tech si ça vous intéresse sur l'aspect vraiment tech. Mais le truc important, c'est que le compte Facebook sera déconnecté du compte Oculus en cours d'année prochaine. Ça sera plus nécessaire d'en avoir un. Donc beaucoup de gens sont très heureux d'entendre ça. Il y a un Grand Theft Auto San Andreas qui est annoncé sur Oculus Quest en VR, évidemment. Donc ça, c'est un petit peu, je sais pas, surprenant ou étonnant ou on verra ce que ça donne.
Ah,
mais
bah pour le coup, c'est la même démarche, je trouve, que Resident Evil 4. Quand ils ont annoncé R4 VR, on s'est dit ah ouais, ok. Bah là, en fait, quand tu vois la réussite de R4 VR, je suis assez curieux de voir ce que peut donner un San Andreas, parce que s'il adapte vraiment à la VR, ça peut vraiment être chouette, quoi.
Tout à fait. Et avant qu'on parle du The Event, du coup, JK, est-ce qu'il y a un truc que tu veux noter sur les annonces de Facebook ou c'était juste ça?
C'est un très vaste sujet, parce que au-delà de l'Oculus, ils ont annoncé qu'ils bossaient sur un nouveau casque aussi, qui s'appelle, s'il a un nom de code, j'ai oublié.
Projet Cambria, je crois.
Cambria, voilà, qui est un truc très haut de gamme, qui va être très haut de gamme. Donc, ils l'ont annoncé, ça va être plus cher qu'un Quest 2. Ça va plus être peut-être orienté professionnel, je sais pas. Mais on n'en sait pas beaucoup. Non, après, c'est le concept de Metaverse que je trouve à la fois terriblement flippant, à la fois terriblement bullshit par moment quand tu vois certaines images, et à la fois c'est vachement attirant parce que t'as l'impression qu'ils y croient énormément, ouais. et qu'ils sont pas les seuls, surtout, quoi. Donc, des fois je me dis, nous on n'est pas la génération, je pense, qui allons vraiment utiliser ça, peut-être, mais par contre nos gosses, nos petits enfants peut-être vivront avec une paire de lunettes connectées toute leur vie, et voilà, quoi.
Là ce qu'on disait dans le rendez-vous tech, c'est que c'est extrêmement ambitieux, ça se trouve ça n'ira nulle part, mais c'est un truc sur le très long terme, c'est 5, 10, 15, 20 ans, mais ils ont l'air de se donner les moyens de faire ce qu'ils annoncent, et ce qu'ils annoncent, c'est Matrix, quoi, en gros. Vraiment le moyen de faire interagir le monde réel et le monde numérique quand on le souhaite, en réalité augmentée, avec des trucs photoréalistes sans lag, et les démos qu'ils font déjà aujourd'hui, alors qu'ils vont travailler sur 5-10 ans pour faire tout ça, minimum, les démos qu'ils font déjà aujourd'hui de certains éléments qui seront nécessaires sont impressionnants. Mais oui, on ne sait pas ce que ça donnera, et pour en discuter, il faudrait une heure, donc je vous propose qu'on mette cette conversation de côté, on aura l'occasion d'y revenir dans 5, 10 ou 15 ans dans le rendez-vous jeu. JK, à ce moment, on pourra voir ce que ça donne avec nos enfants, ces casques de VR, donc on aura les impressions en direct.
On les invitera dans le podcast pour en parler. Ouais.
C'est ça, exactement. On se donne rendez-vous tous les trois, Bédi, dans 15 ans,
dans 10 ans.
Pour parler des expériences de nos enfants avec la VR.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Mais j'aimerais bien parler du The Event, qui a encore une fois battu tous les records. Ils ont réussi à lever plus de 10 millions d'euros pour Action contre la faim, ce qui est quand même assez incroyable. Le précédent record l'année dernière, c'était 5 et quelques millions, je crois. Pour ceux qui ne savent pas, le The Event, c'est un événement mis en place par Zerator, un streamer sur Twitch, un événement caritatif où une cinquantaine de streamers se rejoignent et streament pendant 2-3 jours, pour lever de l'argent pour une bonne cause. Et c'est toujours un peu bizarre de parler du The Event, parce que il y a toujours des gens qui se focalisent sur un aspect qui est réel et qui est problématique de Twitch, qui est toutes les questions de sexisme, de harcèlement, de racisme parfois sur Twitch, qui sont mécaniquement représentés dans le The Event parce qu'ils gratissent très large. Il y a énormément de streamers et quelques streameuses qui sont présents sur l'événement. Et ils pointent pas du doigt ces problèmes, c'est vrai. Et il y a même des incidents qui ont lieu pendant le The Event. Il y en a quelques-uns qui ont eu lieu, qu'on pourrait détailler si vous le souhaitez. Mais en même temps, alors je ne sais pas très bien où me situer. Moi, je trouve ça. Enfin, je crois que c'est les deux choses en même temps, tout ça c'est vrai, et en même temps, c'est incroyable ce qu'ils font, l'argent qu'ils lèvent, c'est quand même une action caritative qui passe par Twitch, par des jeunes un petit peu débiles qui font les couillons devant la caméra toute l'année et qui là se réunissent pour faire un truc cool. Je sais pas si vous avez un avis sur la chose, si vous êtes ni pour ni contre, bien au contraire, je sais pas. Mais c'est toujours un peu bizarre d'en parler. Ouais, Mehdi, vas-y.
Moi, je trouve ça magnifique, ce genre d'initiative, fait par la jeunesse du stream, la jeunesse française. C'est magnifique, c'est les bonnes ambiances, c'est les rigolades, c'est chacun vient avec sa commu pour essayer de motiver de manière générale tout le monde. Donc ça propose des sub goals, c'est-à-dire que si là dans l'heure vous donnez tant, en 2022 je vais faire le marathon de Paris ou je sais pas quoi. Donc c'est vraiment bonne ambiance. Mais et même s'il a cette année un record 10 millions quand même, faut se rendre compte, hein, c'est énorme, c'est magnifique. Et donc c'est d'autant plus dommage que ça soit terni par des histoires, alors que tu trouves pas que sur Twitch, hein, le sexisme, il est partout, dans tous les domaines. Mais c'est triste. L'histoire, si on peut revenir quelques secondes sur cette histoire, c'est un jeune streamer avec sa communauté, qui a décidé de faire un truc que je trouve au mieux très inélégant. Il avait contacté sa copine pour lui dire qu'il va la faire venir, elle va prendre l'avion, tout ça. Et avec sa commu, il était en mode je vais la faire venir, mais derrière on va faire du sexe. C'est très inélégant, c'est pas le genre de truc que tu fais en public, c'est pas le genre de truc que tu veux.
Ouais, il y a pas que ça.
Quand bien même elle serait complice.
C'est une femme qui parle pas français, et il lui a fait dire des trucs en français, genre, je sais plus ce que c'était, mais c'était t'as une grosse bite, machin, et c'est...
Oui, oh là
en
là.
Soi, c'est pas la fin du monde, mais c'est non, mais... un public très jeune qui ensuite s'entraîne, ça objectifie la nana. Et le gros problème, tu allais peut-être en y venir, mais c'est qu'une autre streameuse a vu ça, qui était sur les events,
oui,
Ultia, elle a vu ça et elle a dit, non mais attendez, c'est pas possible, et elle a expliqué aux gens... avec un exemple qui était très très bien trouvé, j'ai trouvé, il disait, mais on s'en fout qu'elle soit d'accord ou pas, ou qu'elle s'en foute. Mm-hmm. Imagine, il met à côté de lui un Nord-Africain, Tunisien, peu importe, et il commence à lui parler en disant, ah ah, attends, alors toi tu bouffes du couscous, machin, il commence à faire des blagues racistes, machin, ça passe pas. Et elle a raison, et elle a complètement raison, et elle s'est fait tomber sur la gueule, elle s'est fait harceler, elle s'est faite, et encore aujourd'hui elle a dû mettre son compte Twitter en privé. En cours de route, lui, donc Inoxtag, je dis le gamin, il doit avoir quoi, 23 ans le type, il a entendu parler de ça, il est venu sur son stream s'excuser, avec des excuses qui semblaient sincères, et il avait l'air vraiment désolé. Moi je trouve que C'était même pas, on me dit 19 ans dans la chatroom, il est hyper jeune, et c'est pas une excuse, mais en même temps
mais ça peut expliquer ouais, enfin, voilà. Dire, quand t'es un jeune homme, tu vois, t'as été toi aussi Patrick, Jika, quand t'es jeune
il y a bien longtemps
voilà, mais quand t'es jeune t'es idiot, les jeunes garçons ils sont un petit peu plus idiots que voilà, j'ai fait des trucs idiots, j'ai eu des fausses bonnes idées de trucs, non mais ça m'est arrivé ne serait-ce que sur No Life, quand je travaillais à No Life, on a eu avec les équipes tout ça des fois des idées qui on va faire ça va faire rire les gens, et en fait c'était problématique, derrière on s'excusait, tout ça. Bon, ça nous est pas arrivé si souvent que ça. Mais effectivement, le jeune Inox, là, derrière, il est parti s'excuser. Et donc, au final, cette histoire... C'est pour ça que j'employais le terme très inélégant. Parce que, voilà, au final, sur ce point-là, sur sa discussion avec la fille, sur le truc et tout ça, je trouve ça pas classe. Mais bon, j'entends qu'on puisse trouver ça... ça va être une bonne idée, ça va faire rire tout le monde. Ouais. Et qu'on se rende compte, après coup... que finalement, c'était pas si drôle. Le truc problématique, comme tu l'as dit, Patrick, c'est la réaction des gens qui sont tombés sur la streameuse qui a raison à dénoncer ça, quoi. C'est ça, c'est un problème, mais c'est même pas propre à Twitch, propre à Twitter. On peut même pas. Et puis aussi, on peut dire le temps qu'a mis l'orga du The Event à réagir dessus. On peut comprendre aussi. Je veux dire, ils étaient dans une dynamique. Waouh, on a fait 10 millions. On a envie de, dans un premier temps, célébrer ça. Dans un second temps, se reposer. Parce que t'imagines bien qu'un week-end de ce style, c'est éprouvant. Et donc, tu peux comprendre qu'ils n'aient pas adressé tout de suite le.
Non, et puis il y a 50 streamers en même temps qui font plein de trucs, qui sont au milieu de la gestion d'un événement qui est compliqué à organiser. Moi, j'aurais aimé qu'à la fin, tu vois, il y ait, ou après même, peut-être que ça vienne, ou que. On va dire, c'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. Et d'une manière générale, comme tu le dis, c'est au-delà de The Event et de Twitch. J'aimerais bien que pour la prochaine fois, ils se disent tous ensemble, bon, écoutez les gars, on va faire une réunion de production avant. Ce genre de conneries, ça suffit. Et peut-être même, dans un mois, qu'ils fassent une déclaration commune tous ensemble et qu'ils disent, ça, c'est inacceptable. Ça, le harcèlement, on n'en veut pas. Enfin, mais en même temps, bon, je sais pas. Mais ça serait bien, quoi.
Il faut pas que la dimension ouais mais on fait ça pour des associations, on fait ça pour Action contre la faim, pour tout ça, il faut pas que cet aspect là il empêche d'avoir ce genre de réflexion sur on veut pas avoir une commu toxique. Il faut pas, parce que au final ça salit les 10 millions, tu vois ce que je veux dire? Les 10 millions, ils sont magnifiques, mais ils sont clairement entachés par cette histoire là. C'est dommage. C'est vraiment
dommage. Je dirais que, en conclusion, je dirais que oui, c'était certainement un incident problématique. Il y a un très bon papier sur Gamekult d'ailleurs qui détaille la chose. C'est Nodus qui l'a écrit, je crois. Si vous voulez en savoir plus, ce que je dirais, c'est que l'incident comme ça, c'est l'ampleur, j'ai l'impression, j'espère qu'au fil des années, en moyenne, l'ampleur de ce type d'incident et de ce type de problème se réduit. Et là, la réaction du gamin, parce que bon, je vais dire gamin, je suis suffisamment vieux pour me permettre ce genre de choses. La réaction, je suis sûr qu'il y a quelques années, ça aurait été « Ouais, mais c'est bon les gars, on nous emmerde, on peut plus rien dire, machin ». Là, sa réaction première, ça a été « Ah merde, attends, j'ai merdé, je vais aller m'excuser auprès d'elle, ça a été mal compris, je voulais pas du tout ». Tu vois, donc j'ai l'impression, j'espère que ça va dans le bon sens. C'est, ouais, c'est ce que je dirais, quoi.
Ouais, mais dans Darkest Dungeon 2, t'aurais le trait optimiste. C'est bien.
Le trait optimiste, voilà, exactement. Voilà. Et on va conclure avec une news. Il y a plein d'autres choses dont on pourrait parler, mais on va conclure avec ce qui se passe du côté de chez Blizzard, avec un petit one-two punch un petit peu frustrant. Il y a eu, d'une part, le président d'Activision Blizzard qui a fait une série d'annonces la semaine dernière qui était, là encore, qui allait plutôt dans le bon sens, avec le fait que, bon, certains vont critiquer la chose, mais il a déclaré qu'il allait couper son salaire au minimum autorisé par l'État, c'est-à-dire 60 000 dollars, quelque chose comme ça, y compris les compensations qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne va gagner jusqu'à ce que les buts qu'ils ont établis, les goals, c'est les stretch goals comme sur The Event, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but, il va être payé que 60 000 dollars par an. Évidemment, il a gagné 150 millions de dollars l'année dernière, donc ça va. Il ne va pas aller acheter...
Il a un peu d'avance, ça va.
Voilà, il a un petit peu dans le porte-monaie, il ne va pas aller faire les courses chez Leclerc.
Il ne va pas profiter
Leclerc,
des 100 euros d'Emmanuel Macron.
Exactement. Mais au-delà de ça, il y a des buts vraiment significatifs. Il chiffre les choses pour dire nous allons avoir tant de personnes d'égalité avec des personnes égalité des sexes ou des personnes non binaires, tant de diversité avec, en chiffrant vraiment, zéro tolérance policy pour les histoires de harcèlement, donc pas juste on donne des avertissements machin, c'est zéro tolérance. Et ils accèdent à l'une des demandes les plus importantes de A Better ABK, qui est une sorte de syndicat qui dit pas son nom, qui s'est formé après les problèmes de harcèlement chez Activision Blizzard, qui était la demande de ne pas avoir recours à l'arbitration, je ne sais pas si c'est ça le terme français, l'arbitration, mais plutôt de passer devant les tribunaux pour les problèmes de harcèlement directement. Donc ils font pas, ils décident pas de la chose dans une sorte de faux tribunal d'arbitration.
En interne. Là, ça va vraiment...
voilà, on a, enfin plus ou moins en interne, avec une tierce partie qui est sur lesquelles on se met d'accord. C'était dans les contrats des travailleurs, ça ils le font sauter. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut pas le minimiser. C'est vraiment une victoire pour Better et Biquet. Et en parallèle, lors de l'annonce des résultats de Activision Blizzard, ils ont annoncé en même temps que, enfin, quelques heures avant, que Jen O'Neill quitte Blizzard. Alors, qui c'est Jen O'Neill ? Jen O'Neill, c'est l'ancienne présidente de Vicarious Visions, un des studios qui a été absorbé et intégré à Blizzard il y a quelques mois de ça. Et Jen O'Neill
C'est eux qui ont fait le remake de, enfin, qui ont fait Diablo 2 Resurrected, hein, pour un
tout à fait.
Rappel.
D'accord.
Et elle avait été nommée co-lead avec Mike Ibarra de Blizzard, après le départ de, des anciens dirigeants, peu importe, Jay Allenbrack. Et donc, les leaders, et encore une fois, comme je le disais souvent, leader, ça veut rien dire, c'est pas président, c'est pas CEO, c'est rien du tout, mais bon, les leaders, c'était Mike Ibarra et Jen O'Neill, donc un homme et une femme, et là, Jen O'Neill part de Blizzard pour... Parce qu'elle dit vaguement, je veux poursuivre d'autres opportunités de faire avancer l'égalité dans notre industrie, machin. Et Blizzard va faire un don de $1 million à Women in Games International. Ok, super, c'est très bien. Mais enfin, pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes et combattre l'inégalité dans l'industrie, gérer une boîte comme Blizzard, ça me paraît être le meilleur moyen qui soit. Donc je comprends pas pourquoi elle part, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas clair du tout, et le fait qu'elle parte, évidemment les gens de Blizzard le savaient, mais elle part et ils ont annoncé ces grandes décisions la semaine dernière. S'ils ne l'avaient pas fait, ça veut pas dire qu'elles sont pas bien, hein, mais s'ils ne l'avaient pas fait et que Jen O'Neill avait annoncé son départ, ça serait un beaucoup plus gros problème qu'elle parte. Parce qu'on parlerait que de ça. Et donc, ça salit un petit peu les annonces, même si elles sont objectivement, elles vont dans le bon sens. C'est un bon début, encore une fois. Vous savez, quand il y a ce genre de scandale, on a des grandes déclarations. Ça veut rien. Enfin, c'est important de les avoir, mais c'est une première étape nécessaire, mais qui évidemment ne veut rien dire s'il n'y a pas la suite. Et bien là, ce qu'ils ont annoncé, c'est une deuxième étape qui est également très importante et qui, pour le coup, veut dire un petit peu quelque chose. Mais le fait qu'elle parte, je comprends pas ce qui se passe et enfin il y a un truc derrière, c'est pas possible, c'est super bizarre que la femme à la tête de Blizzard, après toutes ces histoires, se barre pour des raisons aussi obscures que je veux me battre pour la diversité dans l'industrie. Alors qu'elle est à la tête d'une boîte dans laquelle elle pourrait implémenter ça concrètement, je comprends pas. Donc je voulais en dire deux mots quand même.
Ils ont annoncé un remplaçant ou pas? Oui.
Non, maintenant, c'est Mike Ibarra qui est à la tête du truc, qui est un ancien de chez Xbox. Il est sans doute très bien, ce mec, mais bon. De là qu'ils avaient une femme qui était en plus asiatique, je crois, d'origine. En tout cas, une femme en colide. Maintenant, c'est à nouveau un mec qui est à la tête du truc. Donc,
Une femme qui avait l'air de... Enfin, qui venait de l'Activision, qui connaissait bien la boîte, qui avait... Enfin, ouais,
je sais pas. C'est bizarre.
C'est vrai qu'on aura peut-être... On va attendre l'article de Jason Schreier et puis...
C'est ça. Exactement. Donc voilà, autres news qui sont sorties de ce truc. Diablo 4 et Overwatch 2 sont repoussés. De là qu'on n'avait pas de date, ils ont été repoussés à une date plus lointaine que la date qu'on ne connaissait pas. On pensait que
c'est qu'ils n'ont jamais annoncé de date, mais ils repoussent quand même le jeu.
Les rumeurs sur 2022 pour Overwatch 2 commençaient à se faire persistantes, donc je pense que c'était un moyen de dire non, c'est pas pour tout de suite du tout, donc attendez encore, ça sera pas 2022.
Je sais pas si c'est le moment, mais c'est vrai que c'est assez en termes de prod et de gros jeux là, c'est quand même fou, parce que je trouve que cette année il y a eu Diablo 2 Resurrected qui est un super jeu, mais c'est pas non plus un deal breaker en termes de vente, etc. Enfin, en termes de vente, je sais pas, mais je trouve que là vraiment ça sent pas bon en termes de projet, tu vois, chez Blizzard. Diablo 4 n'arrivera pas avant effectivement probablement 2 ans voire 3 ans. Overwatch 2, en vrai, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout,
Disons que
ils sont vraiment dans une espèce d'impasse créative. Bon, après j'imagine que tout ce qui s'est passé joue aussi forcément, mais voilà quoi.
Si tu as le trait pessimiste dans Darkest Dungeon 2, tu vas dire ah mais la production est complètement c'est éparpillé, ils n'arrivent pas à trouver une direction pour le jeu, machin.
Oui.
Voilà. Ouais. Si tu as le trait positif, enfin comment, optimiste, tu vas dire bah il laisse au jeu le temps de trouver son fun dans un contexte en plus où la boîte n'a pas sorti de jeu depuis des années et des années, enfin de gros jeux. C'est plutôt une bonne chose qu'Activision Blizzard dise à Blizzard non non bah le jeu est pas prêt, continuez quoi, continuez à le développer, continuez à trouver le truc.
Oui, c'est sûr. Ça a toujours été le cas chez Blizzard hein, normalement, mais.
Ouais, mais on pourrait se poser la question aujourd'hui, tu vois. Encore que j'imagine qu'Activision Blizzard, ils n'ont pas hyper envie qu'aujourd'hui, il y ait un jeu pourri qui sorte de chez Blizzard parce que c'est tuer la réputation de la boîte. Bon. Bref, voilà pour Activision Blizzard. Il y a Call of Duty Vanguard qui va sortir demain. Donc, bon, ça va, je pense qu'ils auront quand même de quoi donner un petit peu d'argent en dividende aux investisseurs.
Oui, ils vont s'en sortir.
Écoutez, on a de l'espoir pour eux, ça devrait pas trop mal se passer. Bon, bah écoutez, il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler. Il y a une démo Metroid Red sur Nintendo Switch, donc si vous n'avez pas joué au truc, vous pouvez y aller. Il y a un jeu Goldorak qui est développé par Microids, donc ça pourra peut-être plaire à certains. Les résultats, bah, tout le monde va bien, sauf que les résultats financiers, tout le monde va bien, sauf que les pénuries de puces commencent à toucher vraiment l'industrie du jeu vidéo et même Nintendo qui a dû baisser de 20% ses prévisions de vente. Donc ça touche jusqu'à Nintendo. Ça veut dire que vraiment ça devient du sérieux. On en parlait aussi dans le rendez-vous tech. Sony a créé un label d'édition de jeux sur PC, comme quoi tout arrive. Ils continuent à vendre plein plein de consoles. Et bon, voilà, il y a plein d'autres news de ce type-là qu'on traitera peut-être un autre jour. Ah si, quand même. Super important, Midnight Suns a été retardé, encore un jeu retardé à fin 2022, il était censé sortir en mars, nous sommes tous endeuillés. Merci à tous les deux de m'avoir accompagné pendant cet épisode épique. Avant de se quitter, je voudrais évidemment vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons par l'ami JK, parle-nous un petit peu de ZQSD entre autres.
ZQSD, bah on est un petit peu en pause en ce moment. On va être honnête, hein, on n'a pas produit grand chose depuis quelques temps là. Donc il va falloir qu'on s'y remette avant la fin de l'année. On a toujours évidemment quand même d'excellentes émissions récentes où notamment bah si vous avez des choses à rattraper, il y a l'élection du meilleur jeu des années 90-2000. On a bien rigolé sur PC hein, bien sûr. C'est quasiment 4 heures, enfin c'est coupé en deux, mais c'est quasiment, ouais, c'est, non je crois que c'est 6 ou 8 heures d'émission en tout. Bon, vous avez de quoi faire et voilà. Et à part ça, bah sur jeuxvideo.com comme d'habitude pour des sujets plus tech, même si je fais aussi du jeu vidéo hein, là je vous l'ai dit, j'ai fait Dusk, j'ai fait Loneco 2 en test. J'ai fait Resident Evil 4 et @JKLoret sur Twitter. Voilà.
C'est ça qui est bien en fait quand il n'y a pas suffisamment de podcasts, quand il y a moins de podcasts, c'est comme quand les jeux sont retardés, ça te laisse le temps d'aller regarder ton backlog. C'est parfait, c'est exactement.
Oui, c'est ça. Écoutez les vieux ZQSD.
C'est ça. Mehdi, où te retrouve-t-on sur Internet, dis-moi.
Alors, bah, déjà, dans un premier temps, j'aimerais dire à JK, oui, ce serait bien que vous fassiez là des aides, parce que, en fait, c'est Moguri, c'est Kevin qui en monte un certain nombre, et nous, ça nous fait de l'argent. Donc, si tu veux bien.
Mec, si tu savais, mais c'est notre seule motivation actuellement pour continuer, c'est il faut quand même qu'on donne de la thune à l'Esbrise.
Il faut lui donner du travail.
Ouais, d'accord. C'est
d'avance, merci. D'avance, merci. Donc, Alice Blaze, effectivement, c'est ma boîte, c'est notre boîte avec Kevin, mais c'est également la chaîne Twitch sur laquelle on peut nous retrouver tous les deux. On stream séparément. Bon, des fois, on stream ensemble. En l'occurrence, demain soir, on va streamer ensemble. Mais voilà, on stream régulièrement pendant la semaine. Et puis, toujours avec Kevin, le Kivs, le Kevlar, comme j'aime bien l'appeler, le Cozy Corner. Hein. Le Cozy Corner, toutes les deux semaines, deux trentenaires, quarantenaires, deux hommes trentenaires, quarantenaires qui font un podcast. C'est le cas de 80% des podcasts en France. mais on y rigole énormément Parce que c'est toujours drôle de discuter avec Kevin. Donc là-dessus aussi, le Cozy Corner, tu peux nous trouver sur SoundCloud, sur toutes les, enfin sur tous les trucs où il y a des podcasts, sur Patreon aussi, parce que nous aussi, Patrick, on a un Patreon. Mais avant de lancer le Patreon, on te regardait, hein, on était, on se disait un jour, ça sera nous un jour. Ça sera nous un jour là. Évidemment.
Et c'est, donc, c'est très très bien.
Voilà, et puis Médoc, je sais pas quel est mon Twitter, mais si tu tapes...
El Médoc, sur Twitter.
Tu vas me trouver, voilà.
Très très bien. Effectivement, le Cozy Corner, le podcast le plus feel-good de l'histoire du podcast francophone. Je vous le recommande très chaleureusement. Merci à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous retrouvez NotePatrick.com sur NotePatrick.com, tous les liens vers tout ce que je fais, y compris le Twitch, bon, c'est NotePatrick aussi, et les replays sur Twitter, NotePatrick Podcasts. Vous retrouvez les émissions, si vous les ratez sur Twitch et que vous n'avez plus les VOD, elles sont également disponibles sur YouTube. Donc, j'ai dit Twitter, je voulais dire YouTube. Elles sont également disponibles sur YouTube. Et bien sûr, le Patreon, et oui, parce que comme à l'aise Blaise, faut bien manger. Et donc, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeu pour soutenir l'émission. Et tant qu'à faire, vous créez un compte et vous pouvez soutenir. Et franchement, vous pouvez soutenir le Cozy Corner, ZQSD et le rendez-vous jeu avec un seul compte Patreon. Donc, pourquoi ne vous créez-vous pas un compte Patreon ? Moi, j'ai mon petit budget de soutien aux créateurs. Il y en a une bonne quantité dans ma liste et j'en suis un homme meilleur. Vraiment. Donc, créez-vous votre compte Patreon et vous pouvez soutenir le rendez-vous jeu et toutes les émissions que vous appréciez. On vous remercie de votre soutien, on vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. On vous fait de gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.